France Culture.
Ah, Madame de Saint, approchez, approchez. Tenez-moi mon cahier.
Il y a là un tissu qui conviendrait merveilleusement bien à mon idée de broderie.
Et ben voilà. Il faudra demander à Madame Bertin ce qu'elle en pense. C'est une fée.
Rose Bertin, ministre des modes, bourgeoise à Versailles. Un documentaire de Sophie Bobert, réalisé par Anne de Pelchin. Être une fée. Retenir l'attention des comédiennes, des duchesses et parvenir à ensorceler la jeune Marie-Antoinette. Se faire une place, jouer des coudes dans un monde régi par les hommes où l'étiquette fait loi. Mais n'est-ce pas risqué pour une bourgeoise de griffer à ce point Versailles ?
Alors, écoutez, ici, on a le fantôme de Rose Bertin. Il est partout. Il est partout et il va y être pendant une vingtaine d'années.
Michel Sapori, historienne du luxe et biographe de Rose Bertin.
Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier, entre le quai de Gèvres, la rue Saint-Honoré, le Palais Royal ?
Bon, le quai de Gèvres, c'est vraiment les boutiques de mode, vous savez, avec l'artisan qui travaille dans sa petite boutique et qui fait tout le produit de A à Z. Après, vous avez deux grandes artères à Paris au XVIIIe siècle qui marquent la mode. C'est la rue Saint-Denis et la rue Saint-Honoré.
Qui crée la mode dans les années 1750, 1760 ? Est-ce que la mode existe pour le tiers-État ?
Je dirais qu'au XVIIe siècle et après jusqu'à la Régence, on avait aussi les lois somptuaires. Donc le costume, féminin comme masculin, était réglementé par des règles très strictes. Et Louis XIV avait bien compris qu'il fallait le circonscrire à Versailles et à la cour à Versailles. Donc il n'y avait pas, si vous voulez, de communication importante entre d'une part la cour et d'autre part la ville où étaient les bourgeoises dont vous me parlez. Chacun avait son rôle.
C'était étanche.
Voilà, c'était étanche. Le vêtement, le costume a toujours été un marqueur social. Voilà.
Très politique.
C'est très politique le costume, c'est tout sauf anodin. C'est tout sauf anodin. C'est un fait social total. Il le deviendra notamment avec tous les marchands de mode du XVIIIe siècle.
L'an 1747, le 2 juillet sur les 9 heures du soir, est née en légitime mariage une fille à Nicolas Bertin, cavalier de la maréchaussée, et à Marie-Marguerite Méquignon, son épouse, et le lendemain a été baptisée par moi, curé sous-signé, sous le nom de Marie-Jeanne.
Romain Zécher, directeur du patrimoine de la commune d'Abbeville.
Alors, évidemment, c'était intéressant parce que c'est le premier acte sur lequel elle apparaît officiellement. L'état civil n'existe pas encore en France, évidemment. Mais on voit surtout qu'elle ne naît absolument pas dans le milieu textile. Son père est militaire. Sa mère, tant bien que mal, va exercer une profession de garde-malade pour essayer d'avoir un petit peu plus de moyens. C'est une famille très modeste. C'est pas parce qu'on est militaire qu'on a une bonne paye, si je puis dire, à l'époque. Et la famille Bertin, vivote plutôt que ne prospère à Abbeville à cette époque-là.
D'autant plus que son père décède alors qu'elle-même, la petite Marie-Jeanne Rose, n'a que 6 ans. Et là, ça devient compliqué pour sa famille.
Ça devient effectivement compliqué puisque la source principale de revenus de la famille, c'était quand même la paye que son père touchait en tant que militaire. La famille Bertin reste à Abbeville néanmoins, de ce qu'on en sait. On est une ville prospère en ce début du XVIIIe siècle, très prospère même grâce à l'industrie du drap et du drap de luxe. On va remonter quelques décennies avant, revenir sous le règne de Louis XIV et la grande politique commerciale que Colbert va choisir de développer pour le royaume. Et il va faire venir et installer à Abbeville des manufacturiers hollandais, la famille Van Robé, qui va prospérer littéralement à Abbeville en développant cette industrie du drap de laine luxueux et notamment la manufacture dite des rames. Et c'est la première fois en France qu'on va construire un complexe, on peut l'appeler comme ça, un complexe industriel, où on va réunir autant d'ouvriers dans un même site. On parle de plusieurs milliers d'ouvriers au même endroit. Rose Bertin aurait peut-être travaillé à la manufacture des rames, en tout cas sans doute, elle a commencé à travailler très jeune pour aider sa mère à subvenir aux besoins de la famille. Rose, semble-t-il, a certaines capacités et en tout cas souhaite évoluer. Elle sait en tout cas lire, écrire et compter, ce qui n'est pas si anodin que ça, ceci dit à l'époque. D'ailleurs, sa marraine, par exemple, si on remonte sur ses archives, ne s'est pas signée, par exemple, en 1747. Rose, elle, quelques années plus tard, eh bien, saura écrire, lire et compter.
Peut-on imaginer que c'est de cette carence financière à mettre peut-être en parallèle avec le faste qui se déploie sous ses yeux dans certaines rues de la commune que va naître une partie de son ambition ?
Elle a sous les yeux, si on considère le quartier Saint-Gilles, de très très belles maisons avec les familles les plus importantes qui y résident. Et puis, on parlait des ventes robées. Si elle a bien travaillé à la manufacture des rames, elle arrive tous les matins devant un somptueux hôtel particulier, puisque la famille Van Robé habite sur site. C'est une des particularités aussi de cette manufacture. Et puis, quartier Saint-Gilles, faubourg Saint-Gilles, plus précisément, donc au-delà des fortifications, les Van Robé se sont fait édifier au cours du XVIIIe siècle ce qu'on appelle une folie, ce qu'on dénomme aujourd'hui le château de Bagatelle. Et donc, voilà, Rose, elle vit dans ce contexte-là aussi économique et elle sait très bien ce qui a été construit à la campagne, à quelques mètres finalement, presque de là où elle est née. Alors là aussi, dans la tradition orale, on raconte qu'une bohémienne lui aurait fait une prédiction à Abbeville. Cette bohémienne lui aurait dit « Vous ferez une grande fortune, on vous portera la robe à la cour ». Alors forcément, pour une petite fille qui entend ça et qui a des rêves plein la tête, elle est portée. Elle est portée et elle arrive à Paris toute jeune, à l'âge de 16 ans.
Elle aurait eu une tante qui s'appelait Mademoiselle Barbier et qui était marchande de mode à Abbeville et qui l'aurait pris comme harpette, si vous voulez, comme apprentice, comme on disait à l'époque, qui lui aura enseigné le métier. Et ensuite, elle avait une demi-sœur qui s'appelait Marguerite d'Arras et qui était mariée à un certain Dondeuil à Paris. Et c'est, je pense, là qu'elle s'est retrouvée. Puisque vous ne pouviez pas, quand vous étiez toute jeune, arriver à Paris sans avoir un point de chute. Et ce point de chute, c'était souvent la famille. Donc je pense que c'est là qu'elle s'est retrouvée à Paris. Et comme elle avait une formation, elle a trouvé un emploi d'ouvrière en mode. Elle va s'installer au départ quai de Gesvres, rejoindre la grande marchande de mode de l'époque qui était Mademoiselle Pagel. Et le magasin s'appelait Le Très Galant. Et probablement, elle en devient après la première fille de boutique. Et en 1773, elle décide de s'installer à son compte. Elle ouvre un magasin dans la rue Saint-Honoré qu'elle va appeler le Grand Mogol.
C'est étonnant ce nom, le Grand Mogol. Il y a quelque chose d'un petit peu exotique. On croirait une référence à des turqueries, non ?
Oui, bien sûr, on est les turqueries qui ont déjà commencé sous Louis XIV. Et pourquoi le Grand Mogol ? Ben, parce que le magasin d'à côté s'appelle le Grand Turc. Et donc, il n'y avait pas de numéro de rue à Paris à cette époque. Donc, on se référait par rapport au nom des magasins. Donc, le Grand Mogol. Alors, elle s'installe là en 1773 et elle va y rester dans cette rue Saint-Honoré pendant 10 ans. Donc, en 1783, elle décide de rejoindre la rue de Richelieu. Pourquoi la rue de Richelieu ? Parce que le duc de Chartres, qui est donc propriétaire ici des lieux, décide de louer tout le rez-de-chaussée en boutique. Et c'est là d'ailleurs que vont apparaître les premières vitrines sur Paris. C'est ici qu'elles naissent, les premières vitrines sur Paris. Donc un prince du sang qui loue des boutiques, c'était pas très... ça faisait bizarre. Mais Rose Bertin, qui habille la duchesse de Chartres, a très bien compris que l'endroit stratégique de Paris du luxe va se déplacer de la rue Saint-Honoré à la rue de Richelieu. Et elle anticipe ce mouvement. Elle suit en fait le développement urbain de Paris, voire elle le dirige, elle l'amène avec elle.
Qui est la duchesse de Chartres dans les années 1770 ?
Alors, la duchesse de Chartres, c'est une des princesses du sang. Elle est née mademoiselle de Penthièvre et elle va épouser le duc de Chartres. Son beau-père, c'est le duc d'Orléans, le duc de Chartres, qui deviendra par la suite Philippe Égalité.
Donc elle a un rang très, très, très important.
Et c'est une femme très énergique, qui ne se contente pas de rester à Versailles.
Non, elle est sur Paris, puisqu'elle est ici, au Palais Royal, et qu'elle vit ici, au Palais Royal, d'accord ? C'est elle qui va lancer Rose Bertin.
Elle lance d'autres femmes aussi.
Elle lance d'autres femmes aussi. Elle lance tout, la Duchesse de Chartres.
Elisabeth Vigée-le-Brun.
Oui, mais vous aviez un café ici, là, à 20 mètres, qui s'appelait La Civette, qui vendait du tabac. Et en fait, la Duchesse de Chartres, quand elle avait fait le choix de lancer des commerçants, elle arrivait avec son carrosse, elle s'arrêtait devant La Civette, elle faisait en sorte que la marchande lui amène le tabac dans son carrosse, et elle lui disait « Vous avez le meilleur tabac de Paris ». Résultat, le lendemain, il y avait tout Paris à La Civette. C'est Casanova qui raconte ça dans ses mémoires. Donc la Duchesse de Chartres fait ça intentionnellement pour protéger, elle joue le rôle de mécène en fait.
La Duchesse de Chartres, en fait, c'est la première princesse du sang. C'est une demoiselle de Penthièvre, c'est la plus riche héritière de France.
Mathieu Davina, directeur du centre de recherche du château de Versailles.
Lorsqu'elle épouse le jeune duc de Chartres en 1769, elle se fait confectionner précisément sa robe par Marie-Jeanne Bertin. Et c'est vrai que sa robe est immédiatement remarquée et qu'on va commencer à s'arracher les confections de Mademoiselle Bertin.
Vous devrez remuer ciel et terre pour convaincre les Parisiens qu'ils sont face à une princesse française. Vous devez vous comporter conformément aux usages français, aux règles d'élégance française. Et arborer un style français. La robe à la française.
Hélène de Lalleix, conservatrice en chef du patrimoine du château de Versailles et de Trianon.
Lorsque Marie-Antoinette arrive à la cour de France, elle va être immédiatement plongée dans ce monde. Alors on disait ce pays-ci c'était ce monde de la cour qui était un monde véritablement à part, qui était régi par ces sommes extraordinaires de règles très complexes et totalement implicites qu'on appelle l'étiquette qui tenait en quelque sorte toute la cour entre elles. Et notamment cette étiquette à la cour de France, la plus rigide d'Europe, est basée sur deux principes qui sont constitutifs de la monarchie française, la permanente accessibilité et visibilité des souverains. Et c'est vraiment cette tyrannie de la permanente représentation, évidemment, à laquelle Marie-Antoinette va avoir le plus de mal à se soumettre. Et donc, elle va se soumettre à ce cérémonial lourd, comme elle l'écrit des premières lettres tout à fait tendres à sa mère. Elle dit « Tout le monde me regarde toute la journée ». Donc, elle découvre que tous les moments de sa journée sont fixés très précisément, organisés comme un véritable ballet, dont, justement, l'habillement de la reine, l'un des passages les plus célèbres des mémoires de Madame Campan, qui est, comme elle le dit, un chef-d'œuvre d'étiquette absolument interminable dans la grande chambre où chaque duchesse ou comtesse eh bien, va passer la manche droite, ou la manche gauche, selon son rang et sa charge. Et c'est ça qu'elle n'a pas compris, Marie-Antoinette. Elle voit cela, un protocole un peu suranné duquel il faut s'affranchir. Elle n'a pas compris le rôle politique.
Oui, c'est-à-dire qu'elle voit quelque chose de grotesque, mais elle ne comprend pas qu'il s'agit là de maintenir l'aristocratie à la cour de Versailles.
Absolument, absolument. Derrière chaque petit privilège, chaque petit détail se cache un courtisan et la charge, le rang d'un courtisan acquis depuis plusieurs générations. Il y en a une qui le voit, c'est sa mère, comme si on voyait beaucoup mieux dans la distance. Quand on relit les lettres de sa mère, elle voit tout, évidemment. Elle voit ce danger-là.
Elle est très jeune.
Elle est très jeune. Il faut rappeler que lorsqu'elle arrive, elle a 13 ans et demi, à peine. Et c'est véritablement lorsqu'elle devient reine, c'est-à-dire en 74, et cette même année, elle va faire cette rencontre avec Rose Bertin, eh bien, qui va déployer, je dirais, ce goût pour la mode et cette surenchère.
La Duchesse de Chartres va présenter Rose Bertin à Marie-Antoinette à Marly. Et ça va durer jusqu'en février 1793. Donc faites le calcul, ça nous fait presque 20 ans. Donc ces femmes-là vont avoir une intimité qui va bien au-delà du costume d'ailleurs, puisque Rose Bertin l'habillera jusqu'à la conciergerie.
Thank you.
On appelle Rose Bertin la ministre des modes.
Elle a rendez-vous deux fois par semaine, à heure fixe.
Elle se rend à Versailles et elle se rend également pour tout ce qui est les événements extraordinaires. Pâques, Noël, les mariages,
les grands bals,
et elle ajuste directement sur le corps de la reine son vêtement, dans un endroit qu'on appelle la Méridienne à Versailles. Et évidemment, quand elle arrive à Versailles et qu'elle passe devant toutes les duchesses, les comtesses, les marquises et toute l'aristocratie, princesse du sang et autres, ça crée des mécontentements de la part de ces femmes-là. D'ailleurs, les premiers pamphlets contre Marie-Antoinette seront pour beaucoup au sujet de ses modes. Madame Déficit, poussée par Madame du Costume, et on dira de Rose Bertin qu'elle est, si vous voulez, un peu l'âme damnée de Marie-Antoinette avec la Polignac, vous voyez, celle qui l'a envoyée finalement au désastre.
C'est vrai qu'elle s'abroge les droits de l'aristocratie sans en être. Et donc elle ne sera jamais une noble, au sens où on l'entend sous l'Ancien Régime. Et donc, elle va essayer de vivre, mais de profiter du système, comme beaucoup, à l'époque, ont profité du système.
Celui-là.
Mes amis, arrêtez. J'ai décidé de célébrer la naissance de notre ministère des modes par un bal. Aujourd'hui commence une nouvelle ère. Nous allons éblouir Versailles.
Ce sera l'ère de Marie-Antoinette.
Rose, Léonard, je peux aussi compter sur vous?
Après notre passage, cette cour sera totalement chamboulée.
Non, arrêtez, s'il vous plaît. C'est trop rapide, il est trop tôt. C'est Versailles. On ne peut pas tout changer en un claquement de doigts.
La reine et cette marchande se sont bien trouvées parce que d'une part, les créations éblouissantes et sans cesse renouvelées de Rose Bertin créent une envie chez cette reine qui est toujours avide d'être au goût du jour, toujours très sensible, qui a du mal à résister aux nouveautés. C'est ça aussi la mode, c'est que d'un coup on a du mal à résister à quelque chose qui vous appelle. Et puis de l'autre côté, Rose Bertin, parmi nombre de ses qualités, là, pour ainsi dire, le sens de la publicité. Et elle va trouver dans la figure de Marie-Antoinette un mannequin absolument parfait qui va lui permettre de promouvoir ses créations dans toute l'Europe. Il faut bien se rappeler, c'est un historien, Antoine Lilti, qui a bien montré que cette notion de célébrité, qui est tout à fait d'ailleurs opportune dans le sujet de la mode, elle naît exactement à cette époque, au siècle de Lumière. Marie-Antoinette va être un des premiers personnages célèbres de l'histoire, avec la célébrité où on l'entend aujourd'hui. Avant, il y avait la gloire, la renommée, acquise par les arts. Maintenant, il y a cette célébrité excitée par la presse qui génère une sorte d'adulation, d'adoration, de fantasme. Et puis très vite, un revers de la médaille et on déteste ce qu'on a adoré la saison précédente.
Elle est comme une star de Hollywood, en fait.
Absolument, c'est la personne la plus représentée de son temps. On met même sa tête sur des gravures pour mieux vendre les modèles. Donc, aujourd'hui, on pourrait vraiment parler d'influenceuse pour un sujet tout à fait actuel. Et l'arbitre, déjà depuis plusieurs années, l'arbitre du goût, de l'élégance, c'est la cour de France. Et Marie-Antoinette, elle n'est pas à la mode. Elle est elle-même la mode et son goût, il devient le goût, véritablement. Toutes les femmes s'efforcent de lui ressembler.
Donc, l'aristocratie n'aime pas forcément Rose Bertin parce qu'elle bouleverse la statut social, mais en même temps, elle en dépend. Et si vous regardez les livres comptables de Rose Bertin, vous avez tout l'armorial de France. Pour vous donner un exemple, la cérémonie la plus importante pour une femme au XVIIIe siècle, c'était pas le mariage, c'était la présentation à la reine. Je parle de l'aristocratie, évidemment. Pourquoi ? Parce que quand vous étiez présenté à la reine, c'est là que vous aviez les pensions. Donc, en fait, vous deviez passer le jugement de la reine. Et pour passer le jugement de la reine, il fallait être habillé comme elle. Donc, il fallait absolument aller chez Rose Bertin. Et elles se battent, les femmes, pour avoir droit d'aller se faire habiller chez Rose Bertin, qui ne se déplace pas pour tout le monde. Elle ne peut pas, de toute façon. D'accord ? Elle habille la reine de Suez, elle habille la reine d'Espagne, elle fait les grands mariages entre l'Espagne et le Portugal, elle habille toutes les petites cours qui donneront lieu à l'Allemagne, à l'Italie, elle habille
Jusqu'en Russie.
Alors, elle a deux clientèles étrangères principales, elle a les Anglais et les Russes. Alors, les Anglais, pourquoi ? Bah, parce qu'ils faisaient le grand tour au XVIIIe siècle, donc ils venaient au Grand Mogol, qui devient une espèce de salon aussi. Hein. Ce n'est pas simplement un magasin de mode, c'est un salon où on se retrouve et où on parle des événements, etc. Donc, les Anglais font le grand tour, ils viennent au Grand Mogol, et les Russes, qui se sont toujours fait habiller à la mode française. Toute l'aristocratie russe commande à Rose Bertin qui envoie, par un corps de métier qu'on appelle les emballeurs, et qui envoie donc toutes ces modes à la cour de Russie.
Et est-il exact que la mode voyageait à travers les cours européennes, dans des boîtes, dans des malles, avec des petites poupées ?
Oui. Les poupées de mode, c'est un kit de montage, si vous voulez. Ça permet de savoir où est-ce qu'on met le jupon, où est-ce qu'on met le mantelet, où est-ce qu'on met la pelisse, etc. Donc, elles partent au nord, au sud de l'Europe. Sébastien Mercier dit qu'elles inondent toute l'Europe. Et elles transportent comme ça les modes françaises un peu partout en Europe. Et donc, en fait, les cours européennes, si vous regardez les tableaux, sont souvent, on ne sait pas laquelle c'est. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous habillés pareil. Et à la suite des poupées de mode, vous aurez dans les années 80, la création des journaux de mode qui donneront lieu à nos actuels journaux hebdomadaires, plutôt les revues, les magazines. C'est le début de cette presse-là.
Lisez-moi plutôt le magasin des modes. C'est bien vous qui me l'aviez apporté l'autre jour. Ah non, je vous écoute.
On garnit les robes en réseau d'or et d'argent. Et les ornements que l'on préfère aujourd'hui sont des garnitures de tulle ou de filet. Avec des guirlandes de fleurs variées, mêlées d'agrafes, façonnées en lac d'amour.
Poursuivez.
On y ajoute des clans à la chinoise ou des cornes d'abondance qui répandent des fleurs et des petits fruits.
Plus loin, c'est les broderies.
Des caracos de linon brodés en diverses couleurs. Nos dames sont passées rapidement aux robes brodées d'eux-mêmes.
Est-ce que l'on sait si Rose Bertin, une fois installée et bien installée dans la capitale, si elle maintient des liens avec la commune d'Abbeville ?
La seule trace qui semble subsister avec son territoire, c'est qu'elle se souvient de la présence d'une chapelle non loin d'Abbeville, dont elle parlera très très haut à Paris et surtout à Versailles, puisqu'elle en parlera directement à la reine Marie-Antoinette.
Alors racontez-nous cette histoire de robe offerte par Marie-Antoinette.
Alors Marie-Antoinette, une fois mariée au futur Louis XVI, eh bien ce couple va attendre un premier enfant. C'est ce qu'on attend d'une future reine de France.
Ah oui, c'est
son premier rôle de donner les enfants de France. Ça n'arrive pas, c'est compliqué pour le couple princier. Et Rose Bertin explique à Marie-Antoinette, elle la rencontre régulièrement grâce à son entreprise de mode, que Notre-Dame de Montflières, qui est un petit hameau à côté d'Abbeville, eh bien, il faut l'invoquer, il faut prier Notre-Dame de Montflières, et que Notre-Dame de Montflières, présente sur le territoire depuis des siècles, entendra sans doute la prière de la reine. Alors, la prière a-t-elle été dite ou non ? Je ne peux pas vous l'affirmer. Toujours est-il que Marie-Charlotte va naître à la fin de l'année 1778. C'est la future Madame Royale. Le premier enfant du couple est né. Certes, c'est une fille, mais le couple n'est pas stérile en tout cas. Et d'autres descendants arriveront par la suite.
Ça signifie que Marie-Antoinette lui fait confiance. Elle l'écoute.
Il semblerait effectivement que Rose Bertin a réellement l'oreille de la reine pour en arriver là. Et la trace qui subsiste de ce récit, de cette tradition orale que l'on maintient encore aujourd'hui, c'est que la reine, en remerciement à Notre-Dame de Montflières, a offert un drap d'or, comme on dit à l'époque, un tissu tissé de fils d'or, dont on fera deux robes en réalité pour Notre-Dame de Montflières et l'enfant Jésus qu'elle porte sur les genoux.
Et est-ce qu'on sait si elle s'est mariée ? Est-ce qu'elle a fondé une famille, Rose Bertin ?
Ah non, elle était chef de famille, c'est une Amazone, Rose Bertin. Bon, les femmes, c'était quand même avant tout aussi destinées au mariage, donc. Mais Rose Bertin, elle choisit d'abord son métier. Voilà, c'est la Coco Chanel du 18e, Rose Bertin. Même état d'esprit. Elle était chef de famille, c'est-à-dire qu'elle est à Épinay-sur-Seine, c'est son petit Trianon à elle, où elle reçoit d'ailleurs une sociabilité importante, des aristocrates, des ambassadeurs qui viennent chez elle la voir, russes aussi, anglais, etc. Et elle s'entoure là de toute sa famille, c'est une picarde. Donc elle fait venir sa mère, elle fait venir ses frères, ses demi-frères, ses demi-sœurs. Donc elle est entourée de sa famille, elle commande tout le monde. Et plus personne ne travaille, ils deviennent ses deux frères qui étaient menuisiers à l'époque à Abbeville au départ, deviennent bourgeois de Paris.
À l'époque, en 1782, lorsque Rose Bertin acquiert cette résidence secondaire, on ne parle pas de commune d'Épinay-sur-Seine. Il s'agit de la seigneurie d'Épinay, c'est ça?
Ah oui, tout à fait, on est au XVIIIe siècle.
Laurie Copin, responsable du patrimoine de la ville d'Épinay.
Et donc, la seigneurie est aux mains de la famille Lalive de Bellegarde depuis 1741.
Oui, c'est un village entouré de champs et de petits châteaux.
Ah oui, exactement. Et c'est ce qui fait véritablement la richesse, déjà la richesse culturelle et de la population d'Épinay, puisqu'en fait, c'est un village vraiment agricole, un tout petit village, qui est vraiment entouré de champs, dont aujourd'hui on a encore la toponymie, mais qui va être occupé à 80% de terres viticoles, par exemple. Vous aviez un petit peu plus loin les coteaux d'Orgemont, qui vont être occupés par les vignes jusqu'à la fin du 19e siècle, notamment avec le phylloxéra, qui va faire disparaître les dernières parcelles de vignes.
Alors, à quoi elle ressemble, cette maison, lorsqu'elle l'acquiert en 1782?
Alors, en fait, cette maison, on va la découvrir, mais pas tout de suite. On rentre par d'abord un bosquet, des petits jardins, et puis on va voir se dessiner au gré des sentiers, en fait, cette maison avec un toit à la mansarde, qui est vraiment typique du XVIIIe siècle. À plusieurs niveaux, donc du coup vous avez les caves qui sont plutôt dédiées à la cuisine, à la conservation des denrées, du vin dont on parlait tout à l'heure avec les célèbres coteaux d'Orgemont. Le rez-de-chaussée qui va plutôt être dédié au salon de réception.
Les salons d'apparat.
Exactement, les salons d'apparat qu'elle va décorer vraiment avec goût. Parce qu'en fait, elle n'est pas ministre de la mode pour rien. Elle va appliquer vraiment son goût aussi à la décoration de sa maison. Les meubles en bois vont être peints en gris. Vous allez avoir, par exemple, dans les étages qui sont plutôt dédiés à la partie plus intimiste et aux chambres, une chambre bleue, une chambre jaune, une chambre à carreaux. Et du coup, chacun de ses invités pouvait ainsi se sentir vraiment chez lui avec une chambre qui est vraiment... lui donner l'impression de lui appartenir. Et puis, surtout, il faut quand même voir que l'essentiel des chambres donnait sur l'arrière du bâtiment, ce qui donnait directement vue sur la Seine, qui est vraiment à proximité. On ressent le sens du détail qu'elle appliquait déjà, en fait, sur ses créations, que ce soit au niveau des robes, des chapeaux, voire même des chaussures. Et en fait, elle va le pousser au sein de sa décoration. Elle était véritablement très minutieuse. Et puis, surtout, elle avait ce goût du détail où elle avait conscience que si c'était une maison qui était faite aussi pour elle, pour qu'elle puisse se reposer, c'était aussi un véritable atout pour faire ses affaires. Elle y recevait ses clients, et notamment la clientèle russe, notamment la nièce de Potemkin, qui est venue plusieurs fois lui commander des robes en passant des séjours de... voilà.
Baronne d'Oberkirch, mémoire sur la cour de Louis XVI et la société française avant 1789.
Nous dînions à la cour, nous rentrâmes pour nous habiller. Il fallut faire une grande toilette. Madame la comtesse du Nord était magnifique. Elle produisit la plus grande sensation. Elle essaya, ce jour-là, un nouvel habit envoyé de Paris par Mademoiselle Bertin. Ce n'était que dentelle d'or sur un fond de brocart, à grandes fleurs de velours. Assurément, on eût dit un vêtement de fée. La seule garniture de fleurs était un chef-d'œuvre.
Au final, sa popularité va commencer peut-être à se retourner contre elle, puisqu'elle engendre des jalousies.
Oui, forcément, parce qu'il y a toute la profession, que ce soit les anciennes concurrentes, ou même... l'idée, en fait, des sommes qui sont dépensées et qui sont allouées, on a les comptes plusieurs comptes en tout cas, de ce que Marie-Antoinette dépense pour sa garde-robe. Il faut savoir que normalement 120 000 livres sont alloués chaque année pour sa garde-robe en dépenses qu'on appelle des dépenses ordinaires. C'est-à-dire c'est le budget initial, sachant qu'il est largement dépassé la plupart du temps avec des dépenses extraordinaires. Et lorsqu'on voit la part que Rose Bertin a dans ses dépenses, elle est très importante. Donc forcément, lorsque vous avez une sorte de monopole, la critique vient très vite.
Cette adoration qu'elle engendre provoque aussi quelques mécontentements. Certains pères de famille, certains époux qui craignent à la fois pour les finances de leur famille et à la fois de voir leur femme ou leur fille se comporter comme des favorites.
Oui, alors effectivement, bon, alors, évidemment, dans le système de la cour de France, c'est la reine qui donne le ton. Or, elle le donne très haut, ce ton, avec cette surenchère de toilettes toujours plus précieuse ou extravagante. Et elle est accusée aussi peut-être même de ruiner toutes les femmes de France parce que évidemment elles essayent toutes de lui ressembler. Donc elle commence à faire des dettes. Alors on nous dit que les mères, les maris commencent à se plaindre parce que finalement la cour ne peut plus suivre.
Louis-Sébastien Mercier, tableau de Paris.
Les marchandes de mode ont couvert de leurs industrieux chiffons la France entière et les nations voisines. Tout ce qui concerne la parure a été adopté avec une espèce de fureur par toutes les femmes de l'Europe. Ses robes, ses garnitures, ses rubans, ses gazes, ses bonnets, ses plumes, ses blondes, ses chapeaux font aujourd'hui que 1500 000 demoiselles nubiles ne se marieront pas. Tout mari a peur de la marchande de mode et ne l'envisage qu'avec effroi. Le célibataire, dès qu'il voit ses coiffures, ses ajustements, ses panaches dont les femmes sont idolâtres, réfléchit, calcule et reste garçon. Le luxe a pris des formes si horriblement coûteuses qu'il n'y a point de fortune, pour ainsi dire, qu'il ne vienne à bout de miner. Jamais siècle n'a été plus prodigue que le nôtre. On consomme des revenus entiers, on dévore ses capitaux, on étale une surabondance scandaleuse, on veut effacer son voisin.
C'est une fuite en avant.
C'est une fuite en avant, mais vous savez, l'imitation et la surenchère, par définition, c'est les deux piliers de la mode.
Ce que Rose Bertin marque dans l'histoire de la mode, c'est le passage entre l'artisanat et l'art. Vous aviez des boutiques, avec des choses merveilleuses qui sortaient des boutiques, qui habillaient la cour de France, mais on ne retient pas le nom des artisans qui l'ont fait. Mais avec Rose Bertin, elle va considérer que ces modes, ce n'est pas simplement le tissu, le prix des tissus, le prix des boutons, etc. Elle va dire, il y a de la création. Elle va dire, est-ce qu'aux peintres, on ne leur paye pas que la peinture, on leur paye leur création, leur imagination. Et donc, elle va faire des prix adaptés. Et on va passer progressivement de l'artisanat à l'art, à la notion du grand couturier, du haut couturier.
En quoi est-ce que l'appétence pour la mode créée par Rose Bertin incarne la fameuse querelle du luxe qui traverse le 18e ?
Alors la querelle du luxe, c'est assez compliqué en fait, mais c'est quelque chose qui va effectivement traverser tout le 18e siècle et qui commence avec le Télémaque de Fénelon en 1699, où on a des critiques qui commencent à émerger et on est dans quelque chose qui va finalement vivre au même titre que la querelle des anciens et des modernes au cours du 18e siècle. Alors, les raisons ne sont pas forcément les meilleures. C'est-à-dire que lorsque Fénelon critique le luxe, au même titre que Saint-Simon et que Boulainvilliers, ce sont des critiques parce que ça bouleverse l'ordre social établi par Dieu. Et l'ordre social établi par Dieu, c'est que les aristocrates doivent être riches et que les paysans doivent être pauvres et que l'égalité, on la trouve dans l'au-delà. C'est-à-dire quand on est tous morts, on est tous égaux devant Dieu. Donc il y a une critique du luxe de la part de certains aristocrates traditionnels, simplement parce que des financiers, des nobles un peu libéraux, vont s'abroger le droit d'être extrêmement luxueux au sens prodigue et d'avoir un luxe démesuré par rapport à leur situation. Donc là, ça commence comme ça.
C'est-à-dire qu'on accepte que le luxe soit public, qu'il soit représenté par le monarque, qu'il consacre la puissance de l'État, de la nation, ou qu'il soit à la faveur de l'Église, pour montrer la toute-puissance de Dieu. En revanche, on refuse un luxe privé.
Oui, complètement. En revanche, par la suite, ça sera tempéré, parce qu'on trouve que, évidemment, le luxe est aussi une économie qui sert la société, puisque c'est d'une sorte, entre guillemets, de redistribution des richesses. C'est-à-dire que la population pauvre peut bénéficier des achats luxueux, donne du travail
aux artisans,
etc. Ce dont va bénéficier Rose Bertin, d'ailleurs. Et après, évidemment, tout est une question de dosage, comme aujourd'hui.
Effectivement, apparaît au siècle des Lumières, au moment où culmine justement cette industrie du luxe, qui est toujours une valeur, hein, aujourd'hui, des images de la France, eh bien, à la fois dans la sphère intellectuelle et sociale, un débat que les historiens nomment « querelle du luxe », pour résumer rapidement, qui oppose d'une part eh bien, des réflexions et une condamnation d'ordre moral qui étaient mises par des philosophes, notamment Rousseau, et puis d'autre part des réflexions d'ordre économique sur ce commerce du luxe, qui est aussi, je l'ai dit, une des images de la France, et un commerce très florissant et très productif. Alors bien entendu, Marie-Antoinette ne fait pas partie de ce débat, mais elle l'incarne, puisque elle, je dirais, et tous les grands aristocrates à la cède à une frénésie, un tourbillon, je dirais, de dépenses absolument effrénées, de tous ordres. Alors c'est évidemment le jeu, c'est une véritable, comme dit la mère de Marie-Antoinette, c'est une drogue, c'est les bijoux. Même si elle a une cassette déjà bien fournie, elle fait des achats de bijoux extrêmement conséquents. Que
avoir des dettes, ça signifie qu'on peut se le permettre. Ça signifie qu'on est aristocrate.
Hein. Oui, et qu'on a une certaine distance aussi par rapport à l'argent, qu'on prend des risques aussi. On prend des risques de tout perdre, de la faillite, comme on prend des risques finalement.
Oui,
à la guerre.
Qu'on peut se le permettre.
Et puis, évidemment, les toilettes. Et on voit bien qu'à partir de 1974, lorsqu'elle devient reine et lorsqu'elle rencontre Rose Bertin, eh bien, même de 1976 à 1985, en moins de 10 ans, le budget annuel de la garde-robe, il double jusqu'à aller jusqu'à 260 000 livres. Alors, évidemment, il faut dire ici, quand on parle de ces dettes, de cette course au luxe, que c'est quand même une goutte d'eau dans le budget général de la France. Alors, évidemment, c'est symboliquement, c'est très marquant. C'est toujours les monarchies et les chute pour des fautes symboliques.
La célèbre Élisabeth Vigée-Lebrun. Asseyez-vous. Je veux que vous réalisiez mon portrait. Mon portrait devra représenter la France, qui je suis vraiment, débarrassée de tout artifice. C'est d'accord ?
Oui. Vous évoquiez la figure d'Élisabeth Vigée-Lebrun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons du rejet du portrait qu'elle va peindre de Marie-Antoinette en 1783, alors que est en train d'éclore la mode très rousseauiste, des robes de Gaulle en linon, tout à fait simple. Pourquoi est-ce que, au moment où Marie-Antoinette, que l'on critique, que l'on surnomme Madame Déficit, pourquoi est-ce qu'au moment où finalement elle simplifie sa garde-robe, elle est critiquée?
Parce que c'est la reine. Et qu'une reine ne peut pas avoir une sorte... On a l'impression... En fait, ce qu'on va lui reprocher, c'est qu'on a l'impression qu'elle est en chemise de nuit, qu'elle est en déshabillée. Parce qu'il faut savoir que ce portrait est présenté au salon, au Louvre. C'est pas un portrait qui va être mis dans les appartements de la reine. Donc il est décroché immédiatement... Parce que de voir une reine de France avec ce qu'on appelle cette robe de Gaulle, c'est un déshabillé. Elle est dans son intérieur et donc il est repris immédiatement où on lui met un habit à la française. C'est le fameux tableau de Marie-Antoinette à la rose qui est conservé au Petit Trianon à Versailles. En fait, il y a ce hiatus bizarre, mais ce qui sera la même chose pour Louis XVI qui... va vouloir faire des économies et on va le critiquer de vouloir faire des économies. Et Marie-Antoinette jouant peut-être, c'est même pas peut-être, faussement à la simplicité, on le lui reproche évidemment, mais comme on lui reproche d'avoir des robes à 20 000 livres.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est
non
seulement...
Il y a donc un paradoxe complet, mais...
En fait, elle me donne l'impression d'être complètement piégée.
Oui.
Émilie Amen, comment est-ce qu'on pourrait décrire une robe de Gaulle? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Et à quoi ressemble Marie-Antoinette sur ce portrait peint par Élisabeth Vigée-Lebrun, portrait qui a fait scandale?
Alors, une robe de Gaulle, c'est aussi une robe qu'on dit à l'époque à la créole.
Émilie Amen, historienne de la mode.
C'est-à-dire que c'est une robe dans une étoffe, une cotonnade finalement, entièrement blanche, blanc cassé, c'est une robe qui va vraiment dénoter, parce qu'au contraire des robes de cour habituelles qui sont très largement ornées, qui débordent parfois de garnitures, de rubans, de broderies, d'ornements, à même l'étoffe, ici l'étoffe elle est laissée dans une simplicité qui peut être assez étonnante, voire même un peu choquante, en ce qu'elle révèle bien davantage le corps de la porteuse avant.
C'est-à-dire qu'ici le corps de Marie-Antoinette n'est plus tenu, on le dit presque impudique.
Exactement. Pour le dire autrement, on a presque l'impression qu'elle est au mieux en robe de chambre. Ce serait presque l'équivalent peut-être d'un sous-vêtement aujourd'hui, parce qu'autrefois on portait donc des longues chemises sous ces vêtements. Donc on a l'impression qu'elle a tout simplement pas fini de s'habiller. Alors ça correspond à tout un ensemble d'influences, de références, qu'il s'agisse de l'intérêt pour ces modes dites à la créole, qui sont liées aussi à la présence des Français dans les Amériques à ce moment-là, et bien sûr, de manière un peu plus connectée au contexte peut-être de la France métropolitaine, ces idées philosophiques qui circulent sur une forme de simplification, cette idée de renoncer peut-être en apparence du moins à un déballage de richesse, ou en tout cas une vitrine extrêmement opulente de son rang et de sa richesse.
Je pense que ce portrait, il achève de désacraliser le corps royal. Et puis, elle est attaquée pour cette trop grande simplicité aussi, même par l'industrie. C'est-à-dire que les soyeux lyonnais vont lui reprocher cette trop grande simplicité et de ne pas soutenir l'industrie textile nationale, qui est l'une des grands fers de lance de l'industrie française depuis Louis XIV. Ils vont même jusqu'à aller voir Necker, le ministre, pour se plaindre et réclamer que la reine porte au moins une fois par semaine les grandes brocards et soieries lyonnaises pour soutenir l'industrie nationale. Donc en fait, elle est attaquée aussi de toutes parts, et donc de façon beaucoup plus profonde et insidieuse. Et c'est là, en fait, ce grand danger beaucoup plus sourd de la mode, que sa mère a pointé immédiatement dans ses lettres en disant « Vous n'avez pas ressemblé, Madame de Pompadour, à une comédienne. » Elle le dit, sa mère, à une comédienne. « J'ai reçu le portrait d'une comédienne. » Eh bien, c'est que la nature de la mode, ses limitations. Donc tout le monde peut être habillé comme la reine désormais, et donc Marie-Antoinette va être prise petit à petit avec cette surenchère de la mode dans un flot d'imitation. Et donc elle va disparaître quelque part en abandonnant ce costume royal.
Elle est désacralisée.
Elle est désacralisée. Pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre de Philippe Mansel, Dressed to Rule. On s'habille pour régner. Le vêtement, c'est un langage politique. Encore aujourd'hui, ça marque la distance, ça marque le respect. Et en abolissant ce costume royal, elle a aussi aboli cette barrière infranchissable qui la protégeait.
Alors comment ça se passe concrètement pour elle durant la Révolution ? Est-ce qu'elle reste à Paris ? On sait qu'elle continue de fournir Marie-Antoinette tant aux Tuileries qu'à la prison du Temple. Elle lui fournit des bonnets, des robes. Mais est-ce qu'elle-même, elle travaille toujours à Paris ? Est-ce que le Grand Mogol reste ouvert ? Ou est-ce qu'elle s'exile comme bon nombre d'aristocrates ?
Alors, elle va habiller la reine jusqu'au bout, puisqu'elle va fournir à la reine ses vêtements de veuve. Après l'exécution de Louis XVI, Marie-Antoinette commande des habits de veuve, et ces habits de veuve viennent du Grand Mogol. Et là, Marie-Antoinette va lui dire de partir, qu'elle est en danger et qu'elle doit partir. Et donc Rose Bertin reste jusqu'au bout, elle reste le plus longtemps possible. Si vous pensez par exemple à Madame Vigée-Lebrun, Madame Vigée-Lebrun, ça fait bien longtemps qu'elle est partie. Donc en février 1793, elle obéit à la reine, le roi est mort, et là elle part. Elle part et elle va se réfugier à Londres, et aussi elle ira à Koblenz, en fait, elle va aller là où était sa clientèle, notamment souvent pour récupérer des créances.
En fait, il faut savoir que sous l'Ancien Régime, la plupart des grands aristocrates, et encore plus la très haute aristocratie, vit à crédit. Au crédit dans le sens où non seulement on leur fait crédit, c'est d'ailleurs on leur fait confiance parce qu'ils sont censés être solvables. mais ils peuvent rembourser bien des années après. Sauf qu'avec la Révolution, tout s'accélère. Donc, au-delà du fait qu'il y a des gens qui partent en exil très rapidement, comme les Polignacs, qui dès le lendemain de la prise de la Bastille sont déjà sur les routes pour quitter la France, on a d'autres personnes qui, évidemment, ne se préoccupent pas de payer leurs fournisseurs. En revanche, on en a quelques-unes, et c'est le cas d'une dame sur laquelle j'ai travaillé, qui est la dernière des Bontemps, donc la grande dynastie des valets de chambre du roi, et qui, elle, avant justement de partir en exil, va bien prendre soin, parmi les premiers remboursements qu'elle fait, c'est à Rose Bertin, et elle lui rembourse plus de 60 000 livres qu'elle lui devait.
C'est considérable.
Donc, ce qui est une somme considérable. Il faut savoir qu'une maison à porte cochère à Paris, c'est à peu près 20 000 livres.
Elle restera à Londres jusqu'en avril 1795. C'est-à-dire qu'elle part le plus tard possible, elle revient le plus tôt possible. Et quand elle reviendra, elle s'installera justement ici, au Palais Royal, au numéro 26, qui est donc son grand mogol de l'époque.
Comment comprendre, Michel Sapori, que le grand mogol soit resté ouvert, alors que les révolutionnaires étaient tout de même très tentés de le fermer?
Parce que le grand mogol faisait vivre des sans-culottes. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que Rose Bertin, ce n'est pas une midinette qui met du soleil dans les rues avec les froufrous de l'ancien régime. C'est une vraie femme d'affaires, une self-made woman. C'est pour ça qu'il l'adore aux États-Unis. Donc, elle a 30 ouvrières, ce qui est énorme pour une femme à l'époque. Mais elle a aussi des sous-traitants. Elle a plus de 150 sous-traitants, ceux qui font les dentelles, les broderies, etc. Donc, elle fait travailler beaucoup de femmes à domicile. Mais elle fait travailler aussi les tailleurs, les marchands de plumes, vous voyez, des ateliers de couturières qui elles-mêmes ont des ouvrières. Et donc, en fait, Paris est une ville industrieuse, beaucoup par le textile. Donc, en fait, fermer le Grand Mogol pour les révolutionnaires, mais c'est fermer aussi des sources d'emploi.
Est-ce que les affaires repartent comme avant?
Non, absolument pas. Elle est vraiment marquée comme étant la marchande de mode de la reine. C'est d'ailleurs ce qu'elle avait mis ici en grandes lettres devant sa boutique et qu'elle ne changera pas, qu'elle gardera même après la Révolution. Donc elle est trop marquée. Et on verra justement les marchands qui passeront la Révolution. Ce sera par exemple, je pense à Mademoiselle Dubuquoy, qui était par exemple la personne qui s'occupait des tapisseries de la reine, qui après, par la suite, s'occupera de Joséphine. Vous aviez les grands marchands de soie, d'or et d'argent, le Normand, qui lui aussi fournissait la cour de France sous Louis XVI et qui fournira la cour de Napoléon. Donc tous ces marchands-là passeront le cap de la Révolution. Rose Bertin, non. Pourquoi? Pas si elle s'était contentée des modes. Mais elle est devenue intime de la reine, au point même qu'aux Tuileries, elle deviendra son espion avec Léonard, puisque les billets de la reine passeront par les chapeaux de ses deux créateurs. Donc elle a une telle proximité avec la reine qu'elle ne pourra pas, après la Révolution, revenir au sommet.
Après la Révolution française, elle revient, elle est passée de mode, et puis on est sous la politique d'empire. Donc elle se fait discrète, elle va vivre recluse, elle va mener une vie simple, elle ne crée plus. Elle sait aussi où est sa place dans cette nouvelle société, entre guillemets. Donc je ne dirais pas qu'elle a perdu son goût pour la mode, mais en fait elle va vivre très très simplement parce qu'elle n'a plus non plus les deniers. Elle a quand même ses deux domestiques, un cocher et une domestique qui va réaliser la cuisine, le ménage. Après, elle a 66 ans, elle a vécu la Révolution française, l'exil, elle revient. On parle souvent des allers-retours, mais on ne parle pas forcément de l'état psychologique dans lequel les personnes reviennent, qui ont connu le faste et qui d'un seul coup ne sont plus désirées et qui essaye malgré tout de subsister face à une nouvelle époque qui va devenir un véritable laboratoire politique en plus, le 19e.
Joséphine viendra une fois lui acheter des mouchoirs, vous voyez,
mais rien à voir avec les commandes de Marie-Antoinette. Mais là aussi, elle a quand même, je veux dire, elle passe le relais, Rose Bertin. Et elle passe le relais à qui ? À Louis-Hippolyte Leroy, qui habillera Joséphine, mais aussi la duchesse d'Angoulême, la duchesse de Berry. Et donc, en fait, le roi, c'est le grand nom de la mode sous Napoléon. Et c'est Rose Bertin qui l'a découvert. Mais elle-même, elle vieillit, elle laisse son magasin à son neveu, et puis elle se retire à Épinay-sur-Seine, dans sa maison de campagne, son petit Trianon.
Est-ce qu'on sait si elle en souffre elle va, de cette semi-retraite progressive ? Est-ce qu'elle a laissé des écrits dans lesquels elle, ou des lettres, une correspondance à travers laquelle on percevrait ses sentiments à son retour ?
On a des lettres, parce qu'elle continue quand même à essayer de vendre ses marchandises à l'étranger, puisqu'en France, elle est quand même encore quelque part dans l'ancienne mode. Elle essaye de vendre donc en France ça marche pas. Donc elle essaye de vendre à l'étranger, notamment en Espagne. Mais on voit entre sa correspondance avec son distributeur en Espagne que ça, les modes ne vont plus et les prix ne vont plus parce qu'elle a les prix de l'ancien régime, qui s'avère très haut, très fort.
Racontez-nous sa dernière journée, donc la veille de sa mort. Qu'est-ce qui la bouleverse à ce point ?
Nous sommes le 21 septembre 1813. Elle se rend à Saint-Cloud avec son neveu par alliance, qui était d'ailleurs ici au Palais Royal, qui était le grand marchand de draps de l'époque, d'accord, et qui avait son magasin ici. Et donc, il l'accompagne à Saint-Cloud. Et à Saint-Cloud, elle va rencontrer comme ça, au détour d'un chemin, c'était pas du tout prévu, donc Marie-Louise, qui était la seconde femme de Napoléon, la nièce de Marie-Antoinette. Et ça va la bouleverser. Elle va être totalement bouleversée par cette rencontre. Je pense que les souvenirs vont la submerger. Elle va rentrer chez elle et elle mourra dans la nuit. Alors, dans son inventaire après décès, c'est marqué d'une maladie nerveuse. En fait, non, je pense qu'elle a fait un AVC. Sous le choc, l'émotion. Donc elle va mourir là, dans la nuit du 22 septembre 1813.
Il est vraiment juste de pouvoir voir dans la figure de Rose Bertin l'un des premiers grands couturiers français, au sens là aussi où on l'entend aujourd'hui. Elle a inventé en quelque sorte la haute couture et la mode même.
Et on voit en fait dans tout cet héritage de Rose Bertin des innovations commerciales tout à fait décisives. Ce sont bien sûr avant tout des femmes de goût, des femmes avec une vision, et c'est en ça que l'héritage de Rose Bertin va souvent être convoqué par les générations suivantes. Herbeau, on peut penser à Barbier, on peut penser à une autre dame qui est assez amusante. C'est presque une anecdote, mais la mère du peintre Camille Corot était en réalité marchande de mode. Un peu plus tard, dans les années 1830, Philiberte Poplin-Ducard. C'est des femmes qui ont leur magasin, qui ont une clientèle, qui pensent stratégie de communication, comme on pourrait dire aujourd'hui, qui pensent leur existence par des papiers en tête, qui ont véritablement cette compréhension pleine de ce qu'est, aujourd'hui on dirait encore, un système de la mode, qui ne se conçoit pas que par la création, qui se conçoit par toutes ces facettes et tous ces métiers-là. Aujourd'hui, on parlerait presque d'empowerment, ou en tout cas, ces figures qui pleinement étaient en pleine possession de leurs moyens créatifs, mais aussi avaient un véritable rôle à jouer sur une place commerciale. Et ça, c'est important à signaler parce que ça va être très largement occulté par la suite. Un moment où on va dire ce n'est plus aux femmes d'habiller les femmes.
Alors comment comprendre que ces femmes-là aient été occultées ? Je reprends votre terme, Émilie Hamen.
Alors c'est intéressant à comprendre, c'est assurément l'avènement de la haute couture et le modèle du grand couturier.
À la Charles Worth.
Exactement, donc Charles Frederick Worth, l'anglais arrivé à Paris dans les années 1840, qui progressivement va inventer ce nouveau système qui est en réalité pas nouveau, parce que nos marchandes de mode, elles ont déjà posé toutes ces bases-là, d'un point de vue stratégique et d'un point de vue créatif. Comme je le disais, elles ont eu cette idée qui paraît d'une simplicité déconcertante aujourd'hui, qui est de vendre le vêtement, c'est-à-dire le textile et la transformation du textile en vêtements. Ça, c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout. Et c'est elles qui, progressivement, ont réussi à réunir ces deux pratiques et proposer un vêtement presque tout fait. Alors, elles ont eu ces innovations-là quelques années. Enfin voilà, c'est pleinement dans le prolongement, dans le droit fil, si je puis dire, des innovations de Rose Bertin. Et ces figures de grands couturiers vont les occulter parce que on va leur octroyer une forme de sérieux peut-être et une forme de vraie reconnaissance artistique que le 19e ne peut alors pleinement octroyer qu'aux hommes. Dans ce contexte-là, la femme demeure malheureusement encore bien sûr seulement cette figure de muse, cette figure de force inspiratrice, mais en aucun cas force créatrice. Et d'autant plus dans la seconde moitié du 19e. Donc rétrospectivement, il y aurait presque une sorte de petite parenthèse enchantée, si je puis dire, hein, dans ces figures d'entrepreneuses, de femmes d'affaires, créatives et créatrices, qui commencent avec Rose Bertin, bien sûr, et qui continuent voilà, de dominer le monde des modes parisiennes dans les années 1810, 1820, 1830.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut attendre Jeanne Lanvin, Coco Chanel.
Pour qu'elles ressurgissent.
Reste une personnalité extrêmement forte, indépendante. On est au 18e siècle et en fait, c'est une personne qui a su bâtir un empire, s'imposer à la société de cour alors qu'en fait, elle venait d'une famille modeste d'Abbeville qui, de par son ingéniosité, de sa créativité, son toupet aussi, il faut le dire, on fait qu'elle est remarquée et surtout, on le disait tout à l'heure, mais son refus d'être mariée et de pouvoir garder d'être maître d'un empire qu'elle a elle-même bâti, créé, qui va être effectivement mis à mal pendant la Révolution française, mais malgré tout, elle va se battre jusqu'au bout et garder cette dignité jusqu'à sa mort. Et ça en fait vraiment une figure remarquable qui a traversé le temps et qui aujourd'hui, même au niveau de son talent de modiste, certains de ses modèles sont encore repris, retravaillés par de grands couturiers. Je pense à cette représentation de Zaya il y a quelques années avec un chapeau qui ressemblait au chapeau de la Belle Poule qui avait été retravaillé par Jean-Paul Gaultier. On se dit « waouh ».
C'était Rose Bertin, ministre des modes, bourgeoise à Versailles, avec Michel Sapori, Romain Zécher, Mathieu Davina, Hélène Delalex, Laurie Copin et Émilie Amène. Merci à Marina Desrousseaux, Solène Régnier, Isabelle Bouch, Clara Frankel et Hélène Dalifard. Lecture, Hélène Biziot et Antoine Beauchamp. Recherche musicale, Antoine Villoz. Prise de son, Virginie Lorda, Noé Chabanne et Alexandre Dang. Mixage, Alison Asgrizi. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Rose Bertin, ministre des modes, bourgeoise à Versailles. Un documentaire de Sophie Bobert, réalisé par Anne de Pelchin.